Mesdames et messieurs, chers collègues, un très grand merci tout d'abord au professeur Dumont pour l'invitation. Je n'ai pas pu assister aux deux autres débats la semaine passée, mais je trouve que c'est une très bonne idée de se réunir ensemble avec des néerlandophones et des francophones sur un sujet aussi important et intéressant que la simplification de Bruxelles et des institutions bruxelloises. Je remercie aussi mon collègue Stéphane Van Omslag pour l'introduction plus en détail qui me permet de ne pas devoir expliquer beaucoup, mais de pouvoir répondre à ce qui a été dit et de formuler quelques observations. Des observations qui sont aussi, ça vaut aussi pour moi, des observations personnelles. Comme le professeur l'a dit, je travaille en politique, mais en même temps, je suis assistant volontaire à la KU Leuven. Mais je dois vous avouer que mon propos sera sans doute trop politique pour un académique, mais peut-être aussi trop académique pour un politique. Simplifier Bruxelles, c'est une question intéressante. Et Stéphane a déjà posé la question de savoir si la simplicité est un objectif en soi. Je ne suis pas immédiatement convaincu de cela. Il faut surtout avoir une plus grande efficacité au profit des Bruxellois quand on parle de Bruxelles. Et la simplification peut être un outil pour afin de l'aboutir. Quels sont pour moi les objectifs d'une simplification ou d'une restructuration des politiques à Bruxelles? C'est d'abord l'efficacité de l'autorité publique ou à Bruxelles des autorités publiques, la possibilité de mettre à disposition des Bruxellois, ceux qui résident à Bruxelles comme ceux qui travaillent, des moyens, davantage des moyens, et aussi, troisièmement, de rendre plus accessibles les services offert aux Bruxellois et d'avoir plus de transparence pour les Bruxellois. Moi, je dis toujours, méfiez-vous des solutions simples pour Bruxelles. La politique, les autorités publiques, c'est toujours la réflexion d'une réalité sociétale, d'une réalité économique. Et donc, je pense à Bruxelles que c'est très difficile d'avoir une simplicité absolue au niveau politique et au niveau des institutions. Évidemment, cela n'exclut pas qu'il faut simplifier les institutions, il faut, mais la simplicité totale n'est pas possible. Premier élément de mon propos, de mon explication, de mon résumé, c'est l'idée de la cocomisation. Donc, en effet, dans la sixième réforme, il y a eu une cocomisation pour plusieurs matières. Stéphane a déjà très bien expliqué, ça vaut pour les allocations familiales. Pour l'APA, par exemple, l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, Impulseo, etc. Pour d'autres matières, il n'y a pas la cocomisation voulue par certains. Il y a la diversité qui est propre à la réalité bruxelloise d'avoir une cocom et deux communautés qui s'investissent avec deux commissions communautaires aussi. Ça vaut, par exemple, pour la vaccination, le dépistage, etc. Mais Stéphane a bien fait tout l'aperçu. Par contre, là où je ne suis pas 100% d'accord avec Stéphane, c'est que la cocomisation, il me semble, n'est pas une cocomisation exclusive. Donc la rationalisation explicite qui a été mentionnée et qui serait la conséquence de la sixième réforme de l'État, je ne partage pas cette analyse. Et je fais référence notamment au projet de décret concernant la protection sociale flamande, de Vlaamse sociale bescherming, et l'avis du Conseil d'État, et c'est un avis important, donc je vais citer le numéro, c'est le numéro 58697 du 5 février 2016, c'est un avis important, qui a été la réaction du Conseil d'État vis-à-vis de l'avant-projet de décret qui a été approuvé par le gouvernement flamand le 16 octobre 2015. Cet avant-projet de décret portait sur trois volets. D'abord, les assurances soins, le zorgverzekering, qui est très bien connu. Deuxième élément, un élément moins connu, c'est un budget de soutien de base aux personnes handicapées. Et troisième élément très important, c'est l'APA, l'allocation d'aide aux personnes âgées qui, selon donc, les précisions dans l'exposé des motifs, dans le développement de la proposition de loi spéciale qui avait comme résultat la sixième réforme de l'État, qui était en effet, d'après le législateur spécial, prévu pour la COCOM. Or, sur base de cet exposé, de ce développement de la loi spéciale, le gouvernement flamand avait décidé d'exclure les Bruxellois de l'élément APA. Donc, le système du décret serait d'application à Bruxelles pour les deux premiers volets, mais pour le troisième volet, APA, les Bruxellois seraient exclus sur base, en effet, de ce que Stéphane a expliqué ici. Or, qu'est-ce qu'il a été la réaction du Conseil d'État? D'abord, le Conseil a en grand détail cité l'avis du Conseil d'État sur les textes de loi spéciale de la sixième réforme de l'État. Cet avis démontre bien qu'il y a trois institutions à Bruxelles qui sont compétentes. La communauté flamande vis-à-vis des institutions unicommunautaires néerlandophones, la communauté française vis-à-vis des institutions francophones, et ensuite la COCOM vis-à-vis des personnes directement et vis-à-vis des institutions bicommunautaires bilingues. Le Conseil d'État a également précisé, ce n'est pas sans importance, que des personnes physiques ou des personnes morales peuvent être considérées comme des institutions au sens de l'article 128 de la Constitution. Deuxième élément dans cet avis du Conseil d'État de 2013-2014, c'est sur les allocations familiales. Là, en effet, dans les textes de la sixième réforme de l'État, il est prévu que la COCOM est compétente, est seule compétente, à l'exclusion des deux autorités. C'est quelque chose qui a été mentionné dans le dispositif même de la loi spéciale. Et, en effet, le Conseil d'État confirme que c'est une possibilité pour le législateur spécial, sur base de l'article 128, paragraphe 2, d'exclure expressément l'intervention des deux communautés. Troisième élément, le Conseil d'État fait référence à la volonté exprimée dans le développement par le législateur spécial, de dire, voilà, il y a plusieurs éléments, à part Impulseo, etc., où il s'agit d'une intervention vis-à-vis des personnes, de droits des personnes, et là, c'est la COCOM qui est responsable. Et c'est là où le Conseil d'État, en 2013, a déjà pris position. Le Conseil a dit, je vais peut-être citer in extenso parce que c'est très important dans le contexte de ce débat, le Conseil a dit que cette position des auteurs de la proposition, donc la position qu'il y a des éléments qui sont réservés à la COCOM, est sans doute basée sur une analyse de la manière dont le législateur fédéral exerce actuellement les compétences dans ces matières, soit en attribuant directement des droits et en imposant des obligations aux personnes physiques, une logique de droits individuels, soit au travers d'institutions, une logique des institutions. Et à cet égard, le Conseil souhaite observer que, même dans l'hypothèse où cette analyse serait correcte, il ne peut en être déduit que la manière dont les compétences sont exercées à l'heure actuelle serait la seule possible. En effet, il n'est pas exclu que des matières qui sont actuellement réglées au niveau fédéral selon la logique des droits individuels soient réglées après le transfert de la compétence par une ou par les deux communautés selon la logique des institutions. Et donc, Conseil explique bien que la possibilité d'une intervention des deux communautés est toujours possible, sauf si, sur base de l'article 128, paragraphe 2 de la Constitution, on précise expressis verbis dans le dispositif d'une loi spéciale que cette intervention est exclue. Et c'est sur base de cet avis de 2013 que le Conseil d'État, dans son avis du 5 février 2016, dit que l'intervention de la communauté flamande pour ce qui concerne l'APA ne peut être exclue. Et en plus, parce que les trois volets de ce système du décret flamand de protection sociale flamande, c'est tous les trois interventions sont basées sur une affiliation aux caisses sociales. Le Conseil dit qu'il se pose un problème d'égalité, si on exclut les Bruxellois de l'application du troisième volet APA du décret. C'est sur base de cet avis que le 4 mars 2016, le gouvernement flamand a adopté le projet de loi, le projet de décret, avec une après avoir supprimé l'exclusion pour l'APA. Donc, dans ce projet de décret, le législateur flamand applique le nouveau système APA aussi aux Bruxellois, à tout de moins à ceux qui vont choisir d'opter volontairement pour les caisses sociales flamandes. Donc, sur cette base, je pense que le caractère exclusif de la compétence n'est confirmé, donc la compétence de la COCOM n'est confirmée que pour les allocations familiales et déléguer l'ATA, toutes les autres compétences transférées par la sixième réforme relèvent de la logique traditionnelle de la réforme de l'État, c'est-à-dire une possibilité pour les deux communautés d'intervenir via des institutions unilingues. Ça, c'est la situation déléguée l'ATA. Alors, la question se pose de savoir, déléguée Ferenda, est-ce qu'il faudrait exclure les deux communautés dans le futur? On peut le faire, on le sait, sur base de l'avis du Conseil d'État, on peut le faire en précisant cela expressément dans les lois spéciales à adopter dans le futur. Pour moi, personnellement, et aussi c'est par ailleurs une position traditionnelle de mon parti, ce n'est pas la solution appropriée pour Bruxelles. D'après nous, les services qui sont rendus actuellement par les deux communautés sont très utiles pour les Bruxellois, qu'il s'agit de la culture, de l'éducation, du bien-être. L'intervention des communautés est une plus-value pour les Bruxellois. Je donne l'exemple de l'intervention de la communauté flamande à Bruxelles. C'est plus de 700 millions d'euros par année. Un exemple concret qui a été annoncé il y a 2 semaines, c'est l'investissement de la communauté flamande dans l'éducation, les écoles de base à Bruxelles. On a promis un investissement de 30 millions d'euros sur 3 années dans des infrastructures d'écoles. C'est 25% du financement additionnel des infrastructures des écoles en Flandre et à Bruxelles ensemble. Donc nous, on a ce qu'on appelle le Brussels Norme, c'est d'investir 5% des montants à Bruxelles. Ici, on parle de 25%. En plus, l'avantage de l'intervention des deux communautés, c'est qu'il peut y avoir une cohérence des politiques, par exemple des politiques pédagogiques, entre le bassin flamand, le bassin bruxellois, d'une part, et le bassin francophone, d'autre part, ce qui est un avantage pour la qualité, parfois, des politiques. C'est aussi pour cette raison, quand on a créé, renommé la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y avait des craintes du côté néerlandophone qui disaient « Ah, c'est quand même dangereux, c'est une annexation de Bruxelles par la Wallonie, c'est quand même très risqué ». Moi, toujours, j'étais très content de voir qu'en Wallonie aussi, on avait un grand intérêt en Bruxelles et on était prêt à investir à Bruxelles. Donc c'est une chose que je trouve très bien, ça vaut pour les deux communautés, j'ai parlé de la communauté flamande, mais je trouve que c'est très bien que la communauté française s'investit davantage à Bruxelles. Puis se pose évidemment la question de la sous-nationalité. L'interdiction de la sous-nationalité est un principe extrêmement important, crucial dans le droit public belge, et je le soutiens. Je le soutiens parce que ce que nous on propose n'est pas une sous-nationalité, certainement pas basé sur les origines, les langues, la race, etc. Mais c'est un choix communautaire pour des services dans des domaines. C'est donc un choix qui est sectoral. Donc on peut aller à un musée francophone, on peut aller à une école néerlandophone, on peut aller à une crèche francophone, néerlandophone, etc. On peut choisir pour une protection sociale assurant soins flamands, on peut aller à une mutuelle francophone, etc. Il n'y a pas de problème, c'est sectoral, ce n'est pas pour toutes les matières. C'est aussi temporaire, c'est jamais pour l'éternité. et on peut toujours révoquer. Donc si le professeur Dumont a parlé de l'interdiction de choisir le système, je suis tout à fait d'accord, il s'agit ici de la possibilité octroyée aux Bruxellois de choisir des systèmes dans de différents domaines. Quels sont les avantages que je vois du cumul de la COCOM et des deux communautés? C'est un avantage avant tout financier pour les Bruxellois. On peut utiliser tous les moyens possibles, et donc les investissements de la COCOM, c'est bien, les investissements de la région, c'est bien, mais le fait que les communautés sont toujours là pour nous aider, c'est très bien. Capacité et expertise, je l'ai dit déjà. Multilinguisme aussi, donc si on dit, voilà, la COCOM, c'est très bien, c'est mieux, parce que là, c'est le bilinguisme qui règne. Je l'espère que c'est la réalité, mais je constate que dans les services que je connais bien, les services des institutions unicommunautaires, le multilinguisme du service est tout à fait crucial. Je suis, par exemple, administrateur dans un CAW, Centrum Algemeen Welzijnswerk, c'est un centre de bien-être général. Je peux vous assurer que les services offerts à tous les Bruxellois, que ce sont des services dans toutes les langues possibles, que ce soit le néerlandais, le français, l'anglais, l'arabe, etc. Donc c'est aussi un élément de multilinguisme, c'est peut-être paradoxal, mais j'y crois fortement. C'est aussi un élément de solidarité entre le nord du pays, le sud du pays et sa capitale, et ça nous impose, mais c'est volontaire, une concertation qui nous aide aussi à défendre notre pays dans sa globalité. Donc, en guise de conclusion sur ce point, cocomisation, oui, mais pas sur base d'une idée d'exclusivité, et pas supprimer les interventions des deux communautés, mais les encourager à investir plus, encore plus à Bruxelles. Deuxième question, c'est le sort de la COCOM. Et j'ai remarqué que Stéphane a très vite exclut l'idée de supprimer la COCOM. Personnellement, je suis tout à fait ouvert à cette discussion. En effet, en 2008, dans la note Octopus du gouvernement bruxellois, on avait mentionné cette idée de supprimer la COCOM, de l'intégrer dans la région. Mais c'est vrai qu'en 2010, avec les propositions notamment de Bart Wever, d'intégrer les allocations familiales de la COCOM, on a oublié cette idée. Toujours, je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi ? D'abord, parce que la capacité administrative de la COCOM, pour l'instant, malgré les efforts remarquables de ce gouvernement et de plusieurs personnes ici présentes, la capacité administrative n'est pas encore parfaite, et l'intégration dans une administration plus importante, plus professionnalisée, ne peut que nous aider. Deuxième élément, c'est la capacité fiscale de la COCOM. Vous le savez que la COCOM ne peut pour l'instant pas recueillir ou percevoir des impôts. La région peut faire ça, et donc l'intégration peut aussi nous aider comme ça. Troisième élément, je suis pas vraiment convaincu par cette idée, mais c'est l'idée d'une identité bruxelloise. Pourquoi pas combiner les deux autorités publiques axées sur le territoire bruxellois dans une seule entité? Ça peut nous aider peut-être aussi dans l'identité des Bruxellois et l'identité de nos pouvoirs publics. Évidemment, il y a deux bémols, et ce que je dis n'est pas du tout partagé par tous les néo-flamands, j'en suis très, très conscient, mais pour moi, il y a deux éléments qui sont importants. Si on va intégrer la COCOM dans la région, il faut, comme cela a été dit en 2008-2009, il faut préserver au moins les garanties pour les néerlandophones, double majorité au Parlement, etc. Et deux, il faut un vrai bilinguisme. Et Stéphane a parlé du basculement des institutions francophones dans le giron bicommunautaire. Il faudra bien vérifier si ce basculement a aussi pour conséquence qu'il y a un vrai bilinguisme, comme cela est évidemment nécessaire et requis juridiquement dans le giron bicommunautaire. Si ces deux éléments sont respectés, donc respecter les garanties des néerlandophones d'une part et vrai bilinguisme d'autre part, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas simplifier Bruxelles en supprimant ou en intégrant la COCOM dans l'administration régionale. Troisième élément, je sais qu'on a parlé ici, je suis désolé que j'étais pas présent, on a parlé de fusionner les 19 communes, les 19 CPAS, les 6 zones de police. Je ne suis pas certain ce qui était exactement la conséquence, la conclusion, peut-être le professeur Sinadet pourra nous expliquer, mais au lieu de fusionner ces 6 zones de police ou ces 19 communes ou CPAS, je crois beaucoup en la régionalisation de compétences importantes qui sont maintenant au niveau des communes, des CPAS, dont au niveau de la région bruxelloise. Et en général, ce n'est pas strictement lié à la sécurité sociale. Généralement, on parle de la mobilité, on parle du stationnement, on parle des permis d'urbanisme, des permis d'environnement, etc. Mais il y a quand même des domaines où une rationalisation au niveau de la région, au niveau de la COCOM, peut être intéressante. Je donne un exemple existant. Ce sont les articles 60 et 61 de la loi CPAS qui parlent du suivi des personnes qui bénéficient d'un revenu d'intégration sociale et qui sont intégrées dans un parcours pour travailler, qui sont mis à disposition des opérateurs. Or, à Bruxelles, c'est Actiris, l'opérateur régional, qui va coordonner les 19 CPAS pour mener cette politique. Et je pense que c'est un très bon exemple. Ce qu'on peut faire, c'est aussi une rationalisation, plus de pouvoir, plus de compétences au niveau de la région, au niveau de la COCOM, mais intégrée dans la région vis-à-vis des opérateurs locaux. Et puis, quatrième et dernier élément, parce qu'il faut encore un petit débat avec vous, évidemment, c'est la question d'une vraie sécurité sociale à Bruxelles. Est-ce qu'il faut davantage défédéraliser d'autres domaines qui sont aujourd'hui encore fédéraux? Première question, c'est une question purement juridique qui a été mentionnée aussi par Stéphane, c'est la question de savoir est-ce qu'on peut passer par une simple loi spéciale ou est-ce qu'il faut modifier la Constitution. C'est une interprétation de l'article 128 de la Constitution avec une doctrine très diverse et intéressante en la matière. Et en 2014, le Conseil d'État, sur la sixième réforme de l'État, a simplement dit qu'il y a une large marge de manœuvre pour le législateur spécial et ici, il n'y a pas de problème. Est-ce que dans le futur, il ne faudra pas modifier la Constitution? Je pense que si on veut défédéraliser toute la sécurité sociale, il faudra sans doute modifier la Constitution. Si on veut faire un peu moins, peut-être pas. Fondamentalement, alors, est-ce qu'il faut avoir une défédéralisation intégrale ou partielle de la sécurité sociale? Pour notre parti politique, si je peux parler pour le CDNV, c'est le principe de subsidiarité qui vaut, qui est d'application. Ça veut donc dire qu'il faut avoir une politique au niveau de l'autorité publique la plus appropriée et la plus proche du citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire in concreto? Je pense qu'il faut beaucoup de prudence en cette matière, mais on peut en général faire une distinction assez classique entre les prestations qui ne sont pas forcément liées au travail et celles qui le sont. Les prestations qui ne sont pas directement liées au travail, ce sont par exemple les allocations familiales, déjà défédéralisées, les services en matière de soins de santé, ou encore le revenu d'intégration. Ce sont des éléments aujourd'hui non liés au travail. D'autre part, il y a les prestations, les allocations liées au travail, l'invalidité, les maladies professionnelles et les accidents de travail, le chômage et les pensions. Ce sont des éléments où il y a une logique assurantielle. Et la logique assurantielle, c'est quoi cette logique? C'est d'essayer de trouver un niveau où il y a de plus possible de contribuables, de ceux qui payent une cotisation. Donc on pourrait par exemple dire que pour la première catégorie de prestations, une défédéralisation est envisageable, mais c'est que beaucoup plus compliqué pour la deuxième catégorie. Pourquoi? Parce qu'il y a la question évidemment des échelles. On a déjà fait référence à la base fiscale limitée de Bruxelles, la problématique aussi de la démographie. Monsieur le professeur Dumont a déjà fait référence à la pauvreté à Bruxelles. Un Bruxellois sur trois qui vit en pauvreté, 100 000 chômeurs. C'est une situation assez difficile. Il y a aussi le principe de la solidarité interpersonnelle qui est quand même importante à ce niveau. En guise de conclusion, je pars de 4 principes. D'abord, une cocomisation, oui, mais sans exclusivité et avec une intervention toujours importante des deux communautés. Deuxième élément, c'est la possibilité d'une régionalisation de la COCOM avec deux conditions. Troisième élément, c'est le renforcement de la région vis-à-vis des opérateurs locaux. Et quatrième élément, c'est une prudence quand même vis-à-vis d'une défédéralisation encore plus importante en matière de la sécurité sociale. Le résultat de tout ça, c'est une situation assez nuancée avec plusieurs intervenants à Bruxelles, autorités fédérales, régions, communautés, opérateurs locaux. Mais ce n'est pas illogique d'avoir une telle situation nuancée, et il faut évidemment avoir une cohérence de vision là-dedans, pas forcément une cohérence d'institution. Donc il y a plusieurs institutions, il faut une cohérence de vision, et ça c'est la mission des hommes politiques, les hommes et des femmes politiques, des partis politiques, et je vois aussi une mission ou un rôle important là-dedans pour le monde associatif, qui évidemment n'est pas lié à une telle ou une autre institution. Voilà, monsieur le professeur Dumont, quelques éléments pour le débat.